Allô, oui, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes des apprentis journalistes qui travaillons pour Radio Campus Paris.
D'accord.
Vous êtes prête à répondre à nos questions ?
Si vous voulez nous poser des questions, plutôt par mail.
L'œil à l'écoute, c'est...
Un œil sur la banlieue, à l'écoute du terrain.
L'œil à l'écoute, c'est...
Un pied en Seine-Saint-Denis.
Un micro ouvert sur le quotidien.
C'est le terre-terre qui s'invite sur la FM parisienne.
Le 9-3 sur les ondes du 9-3.9.
L'œil à l'écoute, c'est surtout...
60 minutes de radio tous les samedis de 18h à 19h.
Ça va être difficile parce que l'émission, c'est une émission radio.
Pardon, je comprends pas ce que vous dites.
L'œil à l'écoute, là l'émission de ouf. Tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct. Si, si.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, la bise à chacun, bienvenue dans les programmes de l'association L'œil à l'écoute. Nous sommes ensemble pendant une heure et pour cette heure et pour ce samedi, nous allons parler pédagogie. J'ai avec moi une invitée, elle s'appelle Aurélie Guillaume, elle est professeure de français, c'est sa matière, principalement au collège. Elle participe aussi au cahier pédagogique et donc on va parler de pédagogie avec toi Aurélie. Comment ça va ?
Ça va très bien, Guillaume.
Alors, tu nous as choisi un petit morceau, histoire de commencer un peu ce début de soirée du samedi. Le soleil est presque là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce morceau ?
Sunshine, everybody loves the sunshine.
On se retrouve juste après pour parler de pédagogie.
Sunshine.
se termine. Un titre qui s'appelle Everybody Loves the Sunshine, écrit par Roy Ayers sur l'album Ubiquity. Si vous cherchez, voilà, c'est pas tout jeune, hein, les jeunes. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris, le curseur est calé sur le 93.9. Vous allez dans les programmes de L'œil à l'écoute. Et L'œil à l'écoute se revendique d'être une association d'éducation populaire. Alors aujourd'hui, on va parler pédagogie avec quelqu'un qui nous vient plutôt de l'éducation nationale. Donc rebonsoir Aurélie.
Bonsoir Guillaume.
Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton parcours ? Est-ce que pour toi, c'était une envie de longue date de devenir professeur ? C'est quelque chose que voilà, t'avais toujours eu en tête ou c'est arrivé petit à petit ?
C'est pas quelque chose que j'ai eu toujours en tête, mais figure-toi que j'ai baigné dans le monde de l'éducation.
Des parents, je crois, professeurs.
Et des grands-parents, et figure-toi.
Aussi, oui, directeur d'école, etc.
Etc. Donc, pour faire original, des parents profs de français et une fille prof de français. Et peut-être que ça va continuer, puisque ma fille aînée se demande si elle ne deviendra elle-même pas professeure de français. Bon, ceci étant, ce n'était pas non plus forcément une vocation de départ, puisque j'ai choisi ce métier pour pouvoir faire autre chose à côté, puisque à l'époque, on m'avait dit, si tu veux faire, par exemple, en l'occurrence, je voulais devenir danseuse, eh bien, on m'avait dit, mais sois prof, tu auras du temps.
D'accord.
Et en fait, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça.
D'accord. Alors, bon... Globalement, pour être professeur, il faut au moins avoir un bac plus 3. Donc, a priori, tu as fait plutôt des études littéraires.
Ouais.
C'était où exactement ?
C'était à Nantes.
D'accord. Donc, cursus sans si simple. Ouais. Et à la fin, tu rentres et tu fais le CAPES.
Je passe le CAPES. Et
Donc, il y a un concours préparé en 2 ans, si je m'amuse.
Ouais. À l'époque, c'était en 2 ans. Maintenant, c'est toujours en 2 ans, même si c'est un peu changé, puisque maintenant, les étudiants doivent passer un master. Master 1, Master 2, et en parallèle préparer le concours. D'accord. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien avoir le concours qui s'appelle le CAPES et ne pas avoir la
leur
première
master.
Année. Voilà.
D'accord.
Alors, ils devront de toute manière, au bout d'un certain
valider,
temps, l'obtenir, d'accord. Mais enfin, voilà, c'est un petit peu plus.
Pour
compliqué.
Être titulaire, en tout cas.
Exactement.
D'accord. Et alors, toi, souvent, moi, je crois savoir qu'une fois que tu es diplômé, tes premières vacations se passent en Seine-Saint-Denis.
Oui.
Qui n'est pas finalement l'endroit où tu as grandi.
Pas tellement.
Et alors, comment s'est passé justement cette approche sur un tissu urbain, même si bon, Nantes est une grande ville. Est-ce que ça a été compliqué ? Est-ce que voilà, qu'on découvre son métier, en même temps on découvre un territoire. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà.
Comment ça se passe ? Alors déjà, c'est un choix.
D'accord.
C'est vrai, quand on démarre, on n'a pas énormément de points, et c'est en fonction des points qu'on a son premier poste. Et moi, j'avais envie. De travailler dans la banlieue parisienne et mon vœu a été exaucé assez facilement, faut le dire. Alors comment ça s'est passé ? Évidemment, on se prend une
alors,
claque hein, dans la figure.
Alors juste, est-ce que tu peux nous dire où tu étais ?
J'étais à Sarcelles.
D'accord, Sarcelles. Ouais. Donc c'est un peu au nord de Paris pour ceux qui ne sauraient pas, au-dessus de la Courneuve, voilà, dans ce coin-là.
Ouais. Et donc, oui, on se prend une claque à double titre d'abord parce qu'on démarre. Donc forcément, on n'a pas les outils pour faire des cours magiques, formidables tout de suite. Et puis, ce public est un petit peu particulier, encore que. Mais en tous les cas, ouais, c'était quand même bien, bien, bien speed. Donc, dans certains cours, ça a super bien marché. Et puis, dans d'autres, beaucoup moins.
Mais est-ce que finalement, c'est pas justement, bon, peut-être un public qu'on va qualifier d'un peu dur, mais au contraire, ça permet justement de mettre en place des choses au niveau pédagogique et, ou alors est-ce que ça a un peu un effet inverse, comme on est jeune professeur, ça peut nous déstabiliser ?
Je pense que ça peut nous déstabiliser. Après, on a sans doute plus d'énergie, de ressources, d'envie, parce que c'est le début et qu'on a plein de choses à se prouver à la fois à soi-même. Et puis se dire, voilà, on n'est pas là pour rien. Voilà. Néanmoins, si tu veux, moi, ce que je pense, c'est que le public en éducation prioritaire, il agit comme un miroir grossissant de toutes les difficultés qu'on peut trouver dans toutes les classes. Voilà. Simplement, compte tenu des difficultés sociales des élèves, tout est grossi. Donc, c'est très intéressant parce que ça oblige à effectivement repenser tous les outils qu'on peut mettre en place et ça demande une exigence par rapport à ces outils que tout le monde devrait avoir. Mais là, sauf qu'avec ce public-là, on n'a pas le choix. J'ai envie de dire, on a besoin d'être un bon prof pour que ça fonctionne. Et c'est très riche. Pour le coup, on apprend très vite.
D'accord. Et alors justement,
À condition d'être accompagné.
Théoriquement, tu es accompagné de l'inspecteur qui évalue ton travail, mais j'imagine que pas les premiers temps et certainement pas les premières années. Est-ce que toi, en tant que professeur, tu peux demander des conseils, j'imagine, à tes collègues, peut-être à d'autres personnes au sein de l'établissement, ou est-ce que tu peux te référer à quelqu'un au niveau de l'académie ?
Alors, ce dont je peux te parler, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Ce n'est pas ce qui se faisait il y a 20 ans quand j'ai commencé.
C'est aussi bien.
Ouais. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la première ressource, ce sont les collègues. Voilà, c'est vers eux qu'on va aller, c'est vers eux qu'on va obtenir des conseils, qui vont nous prêter leur oreille pour vider le son sac quand on en a besoin, quand ça se passe pas bien, et quand ça se passe bien aussi d'ailleurs. Donc l'entraide, l'aide de ses pairs, c'est ce qui fonctionne le mieux. Voilà. Et puis maintenant, ce qui existe en éducation prioritaire, c'est que dans chaque établissement, dans chaque réseau, il y a des formateurs, formateurs éducation prioritaire, qui suivent les établissements, les collègues, et qui apportent une aide à la carte. Alors, ça, c'est formidable parce qu'on peut faire appel à eux quand on veut et ils viennent pour, en fonction des demandes, soit pour animer une réunion, soit pour apporter des ressources, soit pour écouter, soit pour venir dans la classe et observer puis donner des conseils. Ils peuvent faire des formations d'une journée, ils peuvent revenir plusieurs fois. Donc ça, c'est vraiment une chance qu'a l'éducation prioritaire aujourd'hui.
Alors quand tu parles d'éducation prioritaire, ouais, c'est les zones, les ZEP.
Ce sont les réseaux. Alors les réseaux, qu'est-ce
les
que c'est ?
Voilà, oui,
alors il y a les REP et les REP+.
D'accord.
Les réseaux d'éducation prioritaire sont les ensembles, les ensembles d'écoles et de collèges. T'as un collège et puis t'as toutes les écoles du
primaire,
secteur,
ouais,
qui sont dont les élèves vont ensuite au collège. Et l'ensemble de ces établissements, ça forme un réseau.
D'accord, ouais, d'accord. Voilà. Oui, parce que j'ai remarqué. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a il y a de plus en plus de porosité entre l'école primaire et le collège.
C'est-à-dire ouais, et que, c'est tant mieux.
Notamment au niveau des programmes. Et j'imagine les élèves sont moins perturbés. Enfin,
c'est ce qui est visé.
D'accord.
C'est ce qui est visé, c'est qu'il y a une continuité entre. Alors d'ailleurs, maintenant, on parle de cycle.
Oui, hein,
entre le cycle 1, 2, 3, 4.
Mmh.
Cycle 1, je crois que
c'est
la petite section à la grande section. Cycle 2, CP, CE1, CE2. Cycle 3, CM1, CM2 et 6e.
Oui, tout à fait. Oui, oui.
Et c'est là qu'on voit qu'il y a une continuité, c'est-à-dire que les programmes vont être les mêmes. CM1, CM2, CM6e, avec quand même des indicateurs un peu différents dans ce qu'on attend d'un élève de CM1, CM2 et de 6e. Et le cycle 4, ça va être 5e, 4e, 3e.
D'accord. Et il y a toujours un brevet à la fin du collège.
Et il y a toujours un brevet à la fin du collège. Et à mon avis, c'est pas prêt de disparaître, quoi qu'on entende.
Et c'est pour toi important qu'il y ait ce genre de...
De brevet, enfin d'examen final.
Oui, d'examen, en tout cas, d'avoir une sanction sur une épreuve qui est rassemblée sur quelques jours, alors qu'on voit que certains pays, je pense aux pays du Nord, qui préfèrent, eux, ne pas faire d'examen, mais d'avoir un contrôle en continu, une évaluation, limite pas numérée, enfin pas quantifiée, mais plutôt des appréciations sur le progrès. Quel est ton regard là-dessus ?
Alors là, le brevet, il a une fonction purement symbolique, hein, puisqu'il n'intervient absolument pas dans l'orientation des enfants, des jeunes à la fin de la troisième. Le brevet des collèges, en fait, là, aujourd'hui, il s'appuie sur deux pôles, on va dire. Tu as effectivement un examen final avec des épreuves écrites et maintenant une épreuve orale.
Mmh.
Et puis, tu as la validation du socle commun. Et donc là, le socle commun, c'est l'ensemble de toutes les compétences qu'on attend d'un élève à la fin, de la troisième.
Mmh.
Et donc ça repose sur une évaluation par compétence qui n'est pas notée. Et donc, pour obtenir son brevet, il faut aussi avoir validé son socle commun. Voilà.
D'accord. Mais c'est aussi une façon de préparer le bac. C'est un pré-bac, on va dire, un petit peu, non ?
Oui, c'est une façon de préparer les élèves à des conditions d'examen. Ouais. Ouais. Bon, est-ce que vraiment c'est utile ? J'en suis pas convaincue. Non.
Ouais.
Bon, si, disons que symboliquement, dans notre culture française, ça fait plaisir aux parents, ça fait plaisir aux élèves aussi. Ils ont une espèce de rite initiatique.
Une validation.
Voilà. Après, en termes d'apprentissage, je suis pas sûre que ça serve à grand-chose personnellement. Hein. C'est pas ça qui va leur donner. Si tu veux, cet examen, il va pas leur donner des indications sur ce qu'ils sont capables de faire et puis sur les. Ça peut leur donner des indications sur des outils qu'ils pourraient utiliser pour progresser et pour s'améliorer. Bon, c'est une évaluation sommative qui arrive à la fin d'un cursus. Bon.
En même temps, c'est une façon de finir les choses. On va
repartir
un peu en musique avec un deuxième titre que tu nous as sélectionné, c'est Guts. Le titre, c'est Man Funk et dedans, il y a Leron Thomas. On se retrouve juste après.
What's happening, people? This your boy, LaRon Thomas, out of NYC, by way of H-Town, chilling with Fab and Guts, having a good time, baby, telling the truth, baby, you know what I'm saying, not exploiting the youth, baby, all that good stuff. I don't know why I said that, it just rhymed, but you know what we're doing right now? We're doing that album, Hip Hop After All, roll track.
Vous êtes bien sur Radio Campus Paris. Se termine un titre qui s'appelle Man Funk avec un figurine de LeBron Thomas et l'artiste est Guts. Donc vous êtes dans les programmes de l'association L'œil à l'écoute. Aujourd'hui on reçoit Aurélie Guillaume qui est professeure de français en collège et on va discuter avec elle un peu de son parcours et de pédagogie car elle participe au cahier pédagogique et que ce qui lui plaît dans son métier c'est finalement enseigner. Alors après la Seine-Saint-Denis, d'un seul coup, tu pars dans les terres de la Sarthe
ouais.
Et tu te retrouves là pour le coup dans un collège qui est plutôt en campagne.
Un collège rural à trois quarts d'heure de, du Mans.
D'accord.
Voilà.
Après la ligne droite de la Hunaudière.
Non, c'était au nord.
Oui, pardon, excusez-moi.
Soyons précis.
C'était une blague par rapport aux 24 heures du Mans qui sont connus pour leur rillette et leur course automobile. On le sait. Donc alors, ce changement radical, c'est des choix de vie, mais quelle différence? Parce que finalement, on enseigne de la même façon. Comment tu évaluerais les différences?
Ouais. On enseigne de la même façon. Oui, les pédagogies sont différentes. Simplement, les ressources à la disposition des profs et des élèves sont différentes. C'est plus ça, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, là où j'étais, tu as certains élèves qui étaient jamais... Alors, c'était rare, mais quand même, qui étaient jamais allés en ville, qui étaient toujours restés... qui étaient toujours restés dans leur village. Et donc, de ce fait, imagine bien qu'ils avaient été au contact de la culture. Alors, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse, parce que je suis prof de français. Donc, c'est plutôt ce champ-là qui m'importait. Parce qu'il y en a d'autres. Il n'y a pas que ça dans la vie, mais ça, c'était le champ qui m'intéressait.
Ça permet le dialogue.
Ouais. Et puis, donc, moins de ressources. Et donc, nous, les profs, à notre disposition, évidemment, pour organiser des sorties, pour créer des partenariats culturels, c'était évidemment beaucoup plus compliqué qu'en ville. Parce qu'après, je suis allée en ville et je peux te dire que la différence a été absolument radicale. Donc ça, c'était une première chose. Voilà, une difficulté à ouvrir, une difficulté matérielle à faire découvrir aux élèves la richesse culturelle qui existe en France et en province, la richesse au théâtre, musique, danse, littérature, enfin voilà. Et puis la deuxième chose, c'est que, ma foi, dans ces établissements-là, isolés, en milieu rural, c'est qu'il y a peu de mouvement du côté des enseignants et des personnes qui passent dans l'établissement. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu de stagiaires qui venaient faire, qui venaient passer une semaine ou deux dans nos classes. Des inspecteurs, moi, j'ai jamais été inspectée en 15 ans quand même.
Ah ouais, quand même, ouais.
Donc voilà, on avait peu de formation d'établissement. Enfin voilà, on était un petit peu en vase clos.
Alors, bon. D'un autre côté, vous avez aussi, une stature qui fait que vous avez transmis l'éducation aux frères, aux sœurs, parfois même une génération après. Mm-hmm. Vous êtes plus reconnu peut-être dans ce genre de cas ou pas? Par les parents, par la...
Alors c'est à double tranchant. C'est-à-dire que quand ça se passe bien, oui, mais on est reconnu. Et là, il faut se méfier parce que je ne parle pas de moi, évidemment, je vis personne en particulier. Mais c'est vrai que dans ces villages, on va pouvoir parfois trouver une espèce de réputation un peu excessive, autant autour de certains enseignants, soit positivement, soit négativement. Et ce n'est pas forcément une bonne chose parce que quand on est réputé comme étant le super prof. On a tendance parfois à se reposer un peu sur ses lauriers et pas trop se remettre en question, essayer d'aller découvrir autre chose. Et puis à l'inverse, quand ça se passe pas bien, qu'est-ce que c'est difficile de faire bouger les lignes. Voilà, c'est une des particularités que j'ai observées. Hein. Attention, il ne faut sans doute pas généraliser non plus. Il y a autant de d'établissements que de contextes. Hein. Ouais.
D'accord. Et est-ce que là, il y avait des classes un peu mixtes? Je veux dire, on n'arrive pas à remplir une classe d'âge, donc on mélange les niveaux. Ça arrive en rural, pas en collège?
Pas en collège. En école, oui, bien sûr, et bien heureusement, mais c'est une bonne chose, mais pas en collège. Alors, l'hétérogénéité des classes, ça, c'est quelque chose qu'on va trouver, parce que déjà, l'homogénéité absolue n'existe pas,
bien sûr,
ouais. quoi qu'on veuille. Et est-ce que c'est souhaitable? Ça n'est pas sûr du tout. En France, on est très attaché aux classes homogènes, comme si c'était la panacée, comme si c'était la meilleure façon de permettre aux élèves d'apprendre le mieux possible, alors que en réalité, maintenant, plusieurs recherches nous montrent que ça n'est pas tout à fait le cas, et que si on y est attaché, c'est parce qu'on est attaché à un certain positionnement du professeur qui va être position frontale face à ses élèves et qui va avoir du mal à déléguer la responsabilité de l'apprentissage aux autres élèves, par exemple. Voilà. Les classes multi-âge ou classes permettent justement aux professeurs de prendre un petit peu de distance. D'abord, il organise le fonctionnement de sa classe pour permettre aux élèves d'apprendre ensemble et pour permettre aux élèves de s'aider, de s'entraider. C'est-à-dire que ce ne sera plus lui la seule personne ressource qui détient le savoir. Voilà. Et un certain nombre d'études nous montrent que ce sont des fonctionnements qui sont très très efficaces.
Mais alors bon, je vais faire un peu l'avocat du diable, mais bon, ça peut arriver quand même. Quand il y a des gens qui redoublent, on sent qu'il y a des gens plus âgés, des gens moins âgés. C'est un peu par défaut, mais ça arrive quand même aussi en France, même si c'est pas ce qu'on développe.
Alors, les doublements ou les maintiens, on appelle ça maintien maintenant, il y en a de moins en moins.
Oui, déjà. Pourquoi? On ne sait pas trop.
Pourquoi on ne sait pas trop? Si, on sait pourquoi. C'est parce que ça ne sert pas à grand-chose.
Oui, d'accord, en fait.
C'est-à-dire que ce qui est montré maintenant, alors on a du mal à convaincre, c'est qu'en général, certes, quand un enfant est maintenu dans une classe, pour des raisons d'apprentissage, parce qu'il n'a pas... parce qu'il n'y a pas le niveau, parce qu'on peut être maintenu pour d'autres raisons, eh bien, souvent, les premiers mois, effectivement, on perçoit une amélioration dans les résultats, mais peu à peu, ça se dégrade, et puis, finalement, il se retrouve plus en difficulté qu'il n'était auparavant, parce qu'il a une image de lui-même qui est un petit peu abîmée, du fait de ne pas avoir le même âge que ses camarades. Donc, ce vers quoi certains enseignants tendent maintenant, en particulier au collège, ce sont des classes de cycle. C'est-à-dire qu'on va mélanger, par exemple, on parlait du cycle 3-4, des élèves, faire une classe avec des élèves qui seraient en âge d'être en 5e, 4e, 3e. Il y a des expérimentations qui commencent à être faites et on attend avec grande impatience leurs résultats.
Je sais qu'il y a une démarche d'un collège qui a l'air très intéressante à Aubervilliers, où il est dit que le professeur ne sera pas que professeur, mais qu'il pourra aussi de temps en temps faire le ménage, que la personne qui fait le ménage pourra aussi proposer des activités, que les élèves aussi pourront proposer des activités. Donc on voit quand même que les lignes bougent, même si, d'après ce que tu nous disais un peu en liminaire, l'éducation nationale a du mal à se réformer de l'intérieur, et notamment sur ses théories pédagogiques.
Alors c'est fou, parce que tu dis que ça a du mal à se réformer, et en même temps...
Il y a des réformes tous
les deux ans, voire tous les ans, et que c'est aussi peut-être pour ça qu'on a du mal à se réformer, c'est-à-dire que les unes se superposent aux autres, on ne va pas au bout, et puis on ne laisse pas le temps aux gens de vraiment réformer au fond leur pratique, et de prendre c'est-à-dire que le temps politique n'est pas celui du temps des apprentissages des élèves et du temps de réflexion, de gestation des enseignants.
Bon. Et alors,
qu'est-ce que...
j'allais essayer de poser une question peut-être un peu, mais de se dire, moi je me souviens, tous mes profs me disaient, on a un gros programme, on n'aura jamais le temps de faire tout le programme. C'était souvent, à l'époque où je commençais à m'intéresser vraiment aux choses, donc ça devait être fin collège, début lycée, quel est ton regard là-dessus et dans quelle mesure le professeur, justement, a de la marge sur son programme en se disant, je vais aller un peu moins vite parce qu'au début, je préfère prendre mon temps, je ne vais pas aborder tous les sujets parce que je n'ai pas le temps. Enfin, comment est-ce que toi, tu vis les choses?
Alors, je crois qu'il y a quand même des différences suivant les disciplines. Nous, en français, on bénéficie d'une relative liberté et souplesse. Contrairement, par exemple, aux profs d'histoire-géo, où là, ils ont vraiment des indications très précises sur le nombre d'heures à consacrer à tel ou tel
sujet, période.
Ouais. Nous, c'est beaucoup moins le cas en français. Donc, je vais parler du français puisque c'est ce que je connais. L'esprit des cycles, c'est justement ça. C'est qu'on réfléchisse à partir de compétences qui vont être travailler, développer sur plusieurs années et qui permettront justement à des élèves qui sont qui ont pris du retard à un certain moment pour des raisons tout à fait valables, on a toujours des bonnes raisons
on peut être malade, il peut y avoir des problèmes dans la famille, il peut y avoir plein de choses.
Oui, et puis même parfois quand on n'a pas envie d'apprendre, on peut aussi avoir ou qu'on n'y arrive pas tout simplement, ça peut s'expliquer de toute façon pour de bonnes raisons, on a tendance à dire qu'ils sont paresseux et que c'est de leur faute, ça n'est pas toujours le cas.
En tant que pédagogue, c'est un peu compliqué de dire que c'est la faute de l'élève s'il n'a pas compris quand même, non?
Oui.
Moi, de mon point de vue, s'ils n'ont pas compris, c'est de ma faute, c'est pas de la leur.
Après, il faut se méfier, parce que tu sais, c'est facile culpabiliser les enseignants, ils sont pas responsables. De même que les parents, on n'est pas responsable de tout, et fort heureusement.
Oui, mais il y a des choses qui s'expliquent pas,
partager.
Heureusement.
Bon. Ouais. Donc pour en revenir à ce qu'on disait au départ...
Je vais peut-être donner un exemple, par exemple. Moi, je sais que j'ai lu des bouquins, on m'a forcé un peu à lire, ce qui, pour moi, n'était pas la bonne technique, mais voilà. Et on sentait quand même qu'il fallait avoir lu un Molière, qu'il fallait...
Ah, mais ça, c'est important.
On sentait quand même qu'il y a des... Et là, là, c'est toi qui as vraiment le choix des ouvrages, voilà. Ou est-ce qu'il y a quand même une sorte de tronc commun qu'on doit respecter?
Voilà. Donc, en fait, l'esprit de SIG, c'est ça. C'est travailler par des compétences et y revenir au fil des années. Bon, ça, c'est le travail par compétences. À côté de ça, tu as effectivement des notions ou des œuvres qu'il est important que tout le monde partage pour avoir une culture partagée dans un pays, voilà, qu'on ait des références communes. C'est important pour communiquer, pour réfléchir ensemble, bon, voilà, pour avancer ensemble.
Et puis développer un patrimoine, en fait.
Tout à fait.
L'appréhender.
Exactement. Donc ça existe dans les programmes. Voilà. C'est un petit peu, comment dire, en parallèle des compétences.
D'accord.
Puisque une même œuvre, tu peux la travailler, enfin faire travailler plusieurs compétences à partir d'une même œuvre.
Oui, par exemple, une pièce, tu peux dire on va la monter en fin d'année à un spectacle. Et là, ça engage d'autres compétences que la simple lecture ou l'analyse de texte.
Et puis pour donner un autre exemple, tu reparles d'une pièce de théâtre, tu peux étudier la même pièce de théâtre en sixième, en terminale et puis à la fac.
Bien sûr.
Donc bon.
Donc on revient assez souvent. Hein.
Oui. Ouais, ouais.
Enfin, la répétition fait partie de l'enseignement. On rabâche un peu, on redit jusqu'à temps que ça rentre un peu. Non,
c'est le principe de la mémoire.
Oui.
On peut passer des notes, je ne comprends pas.
D'autant que c'est très verbal. Une grande partie de ce que tu transmets, c'est par l'oralité.
Ah ben non, justement.
Ah, pas toi.
Non. Si tu veux, quand ce que tu transmets, c'est à l'oral, en fait, quand un prof fait cours et qu'il parle beaucoup, c'est lui qui travaille le plus et c'est lui qui apprend le plus.
D'accord.
C'est lui qui a une activité cognitive, l'activité cognitive la plus intense. Il y aura dans sa salle, dans sa classe, un certain nombre d'élèves qui vont écouter, dans d'autres pas du tout. Et dans ceux qui vont écouter, il y en a qui vont avoir cette capacité à vraiment comprendre ce que l'enseignant est en train de dire. D'autres qui vont un peu comprendre, mais pas forcément beaucoup. Donc, c'est pas de cette manière-là, selon moi, qu'on apprend le mieux. Les cahiers pédagogiques, c'est une association qui fait partie d'un courant pédagogique qui s'appelle l'éducation nivelle et dans lequel on promeut la pédagogie active, les méthodes actives. Et donc, on considère qu'on apprend le mieux en faisant, en tâtonnant, en étant actif, en étant en activité. Et être en activité, ça n'est pas seulement, en tout cas, écouter ce que dit le prof.
Oui, moi, je parlais d'un dialogue et dans l'oralité, j'entendais justement cet échange verbal, pas forcément écrit. J'ai l'impression, dans nos cultures, on a quand même beaucoup le livre en tant que base,
ouais.
Même si c'est en train de changer du fait des nouveaux supports, j'imagine. Mais quand même, on a une référence où on a un bouquin à chaque année en français. Le livre est un élément important de l'enseignement.
Oui,
peut-être
oui,
moins
oui,
qu'avant, je ne sais pas.
Si, c'est un élément important, surtout en français. C'est sûr, mais si tu veux, quand tu vas regarder,
aussi, hein.
Ouais,
ça
passe.
Les formules, elles sont physiques, hein, c'est écrit, quoi.
Ouais.
Enfin, il me semble.
Ouais. Alors bon, maintenant, on utilise de plus en plus le numérique. En tout cas, on essaye de varier. Et puis, tu utilises des capsules vidéo, par exemple. Hein. Tu as peut-être entendu parler des classes inversées ou classes renversées. Maintenant, il y a tout un tas de termes où, en fait, les élèves ont accès d'abord à une capsule vidéo qui va leur donner une espèce de petite synthèse en vidéo d'une notion à comprendre. Hein, bon. Et puis après, ils vont devoir faire un certain nombre d'exercices dans lesquels ils vont pouvoir vérifier qu'ils ont bien compris ce qu'il y avait à comprendre. Voilà, il y a tout un protocole. Et puis, il y a plein de façons de faire des classes inversées. Là, je caricature un petit peu, en fait, en racontant ça, mais c'est pour faire comprendre. Donc, on essaie de... C'est un exemple d'utilisation de support numérique, par exemple. Voilà. Maintenant, si quand tu vas en classe, tu te rends compte qu'au fond, l'écrit, oui, ça va être la trace que les élèves vont parfois recopier, la trace que le prof écrit et qu'ils vont recopier. Et ça, c'est pareil, on est toujours dans le travail cognitif du professeur, pas tellement dans celui de l'élève. Mais finalement, quand tu vas dans les classes, tu t'aperçois que c'est énormément d'oral. Énormément. Mais qu'est-ce qu'on entend causer? Qu'est-ce qu'on entend parler? Et je te le dis parce que je suis professeur et puis une autre partie de mon temps, je le consacre à la formation continue des enseignants et notamment en éducation prioritaire. J'ai fait ça pendant 2 ans et donc je suis allée et puis je suis tutrice de profs, de jeunes profs. Et en fait, quand tu vas observer des séances dans les classes, alors tu sais que tu le fais toi-même, hein,
mais tu te regardes
dans les autres et qu'est-ce que ça cause? Qu'est-ce que ça cause? Alors bon, on travaille en parlant, c'est sûr. Mais on peut apprendre différemment et peut-être qu'il faut diversifier. Et c'est en diversifiant qu'on va toucher le maximum d'élèves.
Eh bien, écoute, je te propose qu'on fasse une petite pause musicale et on va parler justement de pédagogie, d'outils qui peuvent justement être arrivés ces dernières années, des nouvelles idées qu'on a avec toi. Et donc, je vous propose un petit morceau de jazz pour se profiter de cette fin d'après-midi. C'est Georgia on my mind.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa. Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia,
I said just an old sweet song.
Mr. Ray Charles, dans votre radio préférée, c'est Radio Campus Paris, on est ensemble jusqu'à 19h. Nous avons le plaisir d'avoir Aurélie Guillaume dans nos locaux, elle est professeure de français et on parle de pédagogie. Juste avant la musique, tu nous as parlé de ton association, donc les cahiers pédagogiques. Quand est-ce que tu découvres cette association? Comment est-ce que tu y rentres et qu'est-ce que vous y faites?
Alors, comment je la connais? Eh bien, je la connais parce que c'est une vieille association, elle date de 1945, figure-toi.
Donc l'après-guerre.
L'après-guerre. Et donc, c'est une association qui publie une revue pédagogique, qui est assez connue dans le milieu des enseignants et de la formation des enseignants, parce qu'elle... on y trouve à la fois des articles de chercheurs, d'experts d'une question et des articles de praticiens qui montrent comment ils mettent en place concrètement les différentes thématiques qui sont abordées par les experts. Donc,
Prend un exemple, par exemple, on va dire, il y a des gens qui sont des linguistes, qui vont faire des théories sur la langue, et d'autres qui vont proposer des activités autour de la langue.
Ouais.
C'est un peu ça l'idée.
C'est un peu ça l'idée. Alors, tu vois, par exemple, moi, j'ai coordonné il n'y a pas longtemps un numéro sur l'esprit critique. Comment former l'esprit critique des élèves et puis des adultes aussi.
Indéniablement, oui.
Et donc, on avait un certain nombre d'articles, oui, d'experts. Alors, je parle Daniel Favre, des chercheurs comme lui, par exemple. Mm-hmm. Et puis, on a eu plein d'articles de profs, mais pas que, qui expliquaient, par exemple, comment ils faisaient des débats philo dans leur classe, comment ils faisaient des conseils d'élèves. Les conseils d'élèves, c'est les conseils qui sont gérés par les élèves eux-mêmes. Il y a un président, un secrétaire, tout ça. Et donc, ils décident ensemble d'un ordre du jour. Et l'ordre du jour, ça concerne toutes les difficultés, les projets que les élèves... Enfin, les difficultés que les élèves ont rencontrées dans la semaine et les projets qu'ils ont envie de mettre en place. Et ils débattent de manière démocratique, prennent des décisions de manière démocratique. Voilà, et donc... bon, c'est deux exemples parmi plein d'autres.
Et alors, ce sont forcément des adhérents de l'association ou c'est des articles que toi, tu peux aller pêcher à droite, à gauche et d'accord.
Tout le monde peut écrire, qu'on soit adhérent ou pas. Ouais. Tout le monde peut acheter la revue sur le site des cahiers pédas, cahiers pédagogiques.
.org point .com
point,
Non, je ne sais pas, point pas. .org, a priori.
Com, oui, .org.
Bon,
com.
À mon avis, dans un bon moteur de recherche, les cahiers pédagogiques, 1945 au cas où, boum, vous tomberez dessus.
C'est clair.
Et à peu près, c'est une parution qui est trimestrielle.
Il y a 8 numéros par an.
D'accord.
Voilà. Il y a
parce
des
que les vacances
série.
D'été.
Mais n'importe quoi,
c'est
vacances
les cahiers
d'été.
De vacances.
Pas du tout, Guillaume.
Pardon.
Alors attends, bah justement, tu me donnes l'occasion de préciser que les cahiers pédagogiques, figure-toi, se rencontrent une semaine pendant l'été. Et oui, les profs travaillent pendant l'été, ils payent même pour se former. Oui, c'est ça le paradoxe. Et donc, on se retrouve une semaine l'été pour causer pédagogie. Alors, on me montre que c'est cahier-pédagogique.com.
Cahier au pluriel.
Pédagogique au pluriel, tant qu'à faire, .com.
D'accord.
Ouais. Voilà, il y a plein d'autres choses. On édite des bouquins. Dans chaque académie, on organise des groupes d'échanges de pratiques, des conférences, des formations. Enfin, voilà,
Et alors, là, c'est français. Est-ce que vous avez des équivalents à l'étranger? Est-ce qu'il y a des coopérations internationales au niveau pédagogique, justement?
Alors, pour
peut-être,
les
tu sais
cahiers
pas, mais...
pédagogiques... Alors, si ouais. tu veux, nous, on s'expatrie, les pauvres. Angélique, si tu m'entends, excuse-moi. On a aussi un groupe... En Belgique, par exemple. Bon.
Francophone, donc
francophone.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Après, si tu veux, les cahiers pédagogiques font partie de l'éducation nouvelle dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est le grand mouvement pédagogique qui regroupe l'ICEM. L'ICEM, c'est la pédagogie Freinet. Les CMEA, qu'on connaît mieux parce qu'ils sont orientés sur l'éducation populaire, les colonies
fait,
de vacances et tout ça. Et puis, enfin, tout un... Voilà, il y a... j'en oublie, évidemment... L'OCCE, qu'on connaît aussi quand on est parent d'élèves en primaire et que c'est des coopératives d'école. Enfin, voilà.
Et est-ce qu'au-delà de la pédagogie...
Attends, pourquoi je te... c'est ça qui est embêtant avec les profs, c'est qu'on est...
Non, mais je vous en prie, finissez. Donc,
ouais, et donc et l'éducation nouvelle, elle a des partenariats internationaux.
D'accord. Ma question, là, c'était, est-ce que vous réfléchissez aussi, parce que c'est un peu dans l'air du temps, souvent on entend parler de rythme scolaire. De façon dont on organise les emplois du temps des élèves. Est-ce que c'est des réflexions que vous avez? Parce que, par exemple, je pense à nos amis allemands qui préfèrent que leurs gamins travaillent plutôt le matin et l'après-midi, ils sont généralement libres. Est-ce que c'est des modèles que voilà, c'est des réflexions que vous avez, vous, ou pas?
Qu'on a, nous...
Au sein des cahiers
Oui. Bah, d'autant que c'était il y a 4 ans, je crois, il y avait toute cette modification des rythmes scolaires dans le premier degré.
4 jours, 5 jours, ça dépendait des régions, il y a eu des tests.
Donc alors là on n'est plus tellement en ce moment, l'actualité ne nous porte plus tellement à réfléchir à ces sujets-là. Aujourd'hui. Néanmoins, il y a tout un tas d'articles qui ont été produits à cette époque-là. Peut-être aujourd'hui, ce qui peut rejoindre un peu le thème dont tu parles, c'est toute une réflexion qu'on mène sur les sciences cognitives et les neurosciences. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est toutes ces sciences qui vont observer comment fonctionne le cerveau.
Bah,
et donc, à partir de là, voir comment quelles conséquences ça peut avoir dans la classe et dans les établissements.
Bah alors, moi venant un peu de l'éduc pop, nous on s'arrange dans nos ateliers pour avoir des temps forts et des temps faibles, que ce soit assez dynamique, et qu'on se rend compte que si on commence à parler une demi-heure aux gamins, bah, ils ne nous écoutent pas au bout de 5 minutes et on perd notre temps et eux ils sont frustrés. Donc il y a aussi peut-être de travailler sur des temps courts, de façon un peu intensive et avoir des temps un peu différents. Ça, c'est des choses aussi qui arrivent dans vos réflexions et que vous essayez de mettre en place.
Bah ça, oui, ça, j'ai envie de dire, c'est le principe de la pédagogie, hein, c'est prendre en compte les rythmes et l'attention des élèves. Alors, il y a des différences et des facilités selon les établissements dans lesquels on travaille. C'est-à-dire que dans le premier degré, où les enseignants ont la classe toute la journée, c'est sans doute plus facile de prendre en compte le rythme d'apprentissage, on va dire, ou en tout cas l'attention, la fatigue des élèves. Au collège, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'on a des séances de 50 minutes, quoi qu'il advienne. Qui sont parfois soit trop courtes, soit trop longues, tout dépend ce qu'on y fait. Alors ça peut être 2 fois 50 minutes, ça peut être 1h30. Donc il y a des expérimentations qui sont faites suivant les établissements, suivant les équipes. Mais là, si tu veux, on a deux difficultés. C'est que, il y a... des difficultés matérielles, de logistique, compte tenu des salles, des emplois du temps, des enseignants. Et puis, il y a aussi des problèmes, et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, moi, qui est le travail d'équipe et le consensus qu'on peut trouver dans une équipe. C'est-à-dire qu'il faut que tous les profs soient d'accord pour changer les emplois du temps.
Bah oui, j'imagine.
Voilà, et que donc, on partage une même analyse de la situation.
Et des nécessités, et voilà. Et alors oui, alors avant que ça me sorte de la tête, mais justement c'était de me dire, voilà, on en a parlé un petit peu au début, mais il y a quand même la révolution numérique qui est arrivée ces dernières années. Les ordinateurs sont de plus en plus puissants, de plus en plus présents dans nos vies, ne serait-ce qu'avec les smartphones qui sont des petits ordinateurs. Est-ce que vous, justement, c'est des pédagogies que vous essayez de tourner autour, de vous aider de ces outils, des tablettes, pour développer d'autres pédagogies ?
Ouais. Alors ça fait partie des obligations des enseignants. C'est-à-dire que nous, on a un certain nombre de compétences professionnelles, c'est-à-dire de capacités... Comment dire ? De capacité à faire... On m'a demandé d'expliquer ce qu'était une compétence, alors du coup, j'essaie de remettre ça à cet endroit-là, mais j'ai du mal, d'un coup. Bon, bref, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure quand ça me semblera plus opportun. Mais... Donc, on a un certain nombre de compétences professionnelles qu'on se doit de réaliser dans notre pratique professionnelle. Et donc, l'utilisation du numérique est une obligation. Ce référentiel, on ne le connaissait pas très bien à mon époque, enfin quand j'ai démarré. Maintenant, quand on forme les nouveaux profs, on les évalue en fonction de ses compétences professionnelles. Et donc, les nouveaux profs ont une obligation d'utiliser le numérique. Et ils ont, dans leur formation initiale à l'ESPE, donc l'ESPE, c'est l'école qui forme les profs, ils ont des unités d'enseignement qui les sensibilisent, parce que c'est très peu d'heures, donc
à l'utilisation du numérique. Est-ce qu'on peut penser qu'à terme, il y aura vraiment, dans le tronc commun, une matière qui s'appellera informatique, codage, ou je ne sais pas, deviendra aussi importante, parce que ça va le devenir, que les maths ou le français.
Ouais, mais alors le codage fait partie des programmes maintenant, je ne sais plus si c'est en maths.
C'est en maths, bon.
C'est le début.
Comme toutes les maths enseignées en collège, ça reste quand même assez léger de mon point de vue.
Mais de toute façon, on n'a pas tellement le choix. Ça va venir.
On doit répondre quand même aux attentes.
Ouais. On n'a pas le choix. Toi, tu parles du codage là, mais il y a aussi toute l'utilisation qu'on peut faire des réseaux sociaux, de l'information sur Internet, et ça aussi.
L'enseignement des médias.
Oui, l'enseignement, l'éducation aux médias et l'information.
Qui a pris de l'importance aussi dans les collèges.
Et qui a complètement changé depuis l'utilisation d'Internet. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on ne faisait pas de l'éducation aux médias comme on en fait aujourd'hui.
Ce qui est bien dommage d'ailleurs.
Ce qui est bien dommage. Et là, on a plus le choix, il faut le faire. Alors, le problème, si tu veux, il est de deux ordres. C'est que d'une part, ça dépend de la dotation des établissements en matériel numérique, c'est-à-dire que c'est bien de faire...
Il faut un parc informatique.
Exactement, qui fonctionne. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut que les enseignants soient formés à l'utilisation de tout ça. Et en fait, ce qui se passe, je pense par exemple à l'éducation aux médias, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, les établissements font assez souvent appel à des prestataires extérieurs.
Je sais. comment vous dire. L'œil à l'écoute intervient et a l'agrément éducation nationale, puisque ça fait quand même 10 ans qu'on intervient dans les collèges d'Île-de-France et de Navarre. Et effectivement, je ne pense pas que les professeurs soient en capacité de mener ce genre d'activité, ce qui paraît logique. Alors, je voulais aussi aborder un dernier point, justement. Alors, c'était quoi avant que je me perde dans ces histoires de médias ? Ah oui, c'était les intervenants extérieurs. On sent quand même que l'école s'ouvre plus vers l'extérieur, essaye quand même d'être plus poreuse, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des allées et venues, peut-être de donner aussi un peu de place aux parents dans l'école. Est-ce que c'est des impressions que j'ai de loin ou est-ce que c'est pas tout à fait ça ?
Ah si, non. C'est, en tout cas, ça fait partie des orientations vers lesquelles on nous sommes d'aller. Hein. Donc on a, ça aussi, ça fait partie de nos obligations professionnelles. Ça a toujours été le cas, mais enfin là, vraiment, on sent, notamment en éducation prioritaire, où là, il y a une réelle nécessité d'ouvrir l'école aux parents, du fait qu'ils peuvent eux-mêmes en être très éloignés, du fait déjà de la barrière de la langue.
Tout à fait.
Et puis pour tout un tas d'autres raisons.
D'avoir appris dans un autre pays, d'avoir grandi dans un autre pays, d'avoir été à l'école, je sais pas, au Maroc, et puis qui est quand même pas tout à fait comme en France.
Ouais. Donc là, il y a des travaux très très intéressants qui sont menés en éducation prioritaire. Vraiment super. Quand ça fonctionne, c'est même émouvant d'aller voir tout ce qui s'y passe. Voilà, dans les milieux un peu plus favorisés. On a quand même tendance à un petit peu oublier. En même temps, là, je fais des grandes généralités. Ça dépend vraiment des établissements
et
des équipes.
Évident. Non, mais en même temps, ce sont des tendances. Et puis, c'est des choses qui évoluent. Ça bouge, la pédagogie. On fait des choses. Puis après, on se rend compte que ça ne marche pas. Donc, on passe à autre chose. C'est quelque chose d'assez dynamique. Et alors, justement, moi, je voudrais que tu démystifies un truc aussi. Parce que je l'ai tellement entendu que c'était mieux avant, que les élèves étaient meilleurs avant, ils lisaient mieux, ils lisaient machin. J'ai pas l'impression.
On disait la même chose à l'époque d'Aristote. Hein.
J'ai pas l'impression, et j'ai l'impression que, mine de rien, on forme mieux nos enfants aujourd'hui qu'avant.
Bah moi je trouve aussi. Mais
non, mais si on parle de niveau d'orthographe ou quoi, c'est des réalités ou pas ? Ou est-ce que tu as entendu parler de ça ou du tout ?
Alors moi ça fait 20 ans que j'enseigne, donc on pourrait se dire que j'ai peut-être un avis là-dessus.
Ouais, mais est-ce que
j'ai pas le sentiment que le niveau en orthographe ait baissé. C'est vrai que, ceci dit, c'est vrai qu'on a quand même peut-être consacré moins d'attention, nous les profs de français, à la forme ces dernières années. C'est-à-dire qu'on s'est plus attaché à la lecture, à la lecture essentiellement, à la compréhension, l'interprétation des textes, un peu moins à la langue et à l'écriture. Mais ça revient. Ça revient parce que c'est important.
Et puis même les supports numériques nous poussent un peu plus à écrire, j'ai l'impression, qu'avant. Enfin, moi, j'écrivais 3 lettres par mois, et encore.
Mais si tu veux, là, ce qu'on essaye de faire, c'est donner du sens à l'apprentissage de l'orthographe, de la grammaire, et que ce ne soit pas complètement déconnecté du reste.
Oui, que l'usage de la langue démontre qu'il est important de la maîtriser et que ça nous permette d'être dans ce monde et de communiquer avec les autres, qui est quand même la base de la langue.
Exactement.
Alors on va faire une dernière pause musicale et puis après il sera le temps de se dire bye. Donc on va écouter un dernier morceau un petit peu funky puisque c'est ta sensibilité. Un gros hit d'entre les hits, c'est Marvin Gaye avec What's Going On.
Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love in here today. Oh, picket lines. Picket signs,
Don't punish me,
sister,
with brutality,
sister.
Talk to me,
sister,
so you can see,
sister.
Oh, what's going on? Everybody thinks we're wrong. Oh, but who are they to judge us? Simply cause our hair is long. Oh, you know that we've got to find. Bring some understanding here today. Oh, oh, oh. Pick it loud and pick it sound. Punish me with brutality. Come on, talk to me. You can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on.
Right,
right on, right on.
Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? What's going on Radio Campus Paris? Donc c'était un titre de Marvin Gaye, vous l'aurez reconnu j'espère, c'est un grand classique. L'émission s'achève, vous êtes dans les programmes de l'association L'œil à l'écoute, vous êtes sur Radio Campus Paris, et bah, il va être le temps de nous dire au revoir Aurélie. Alors est-ce que tu peux nous faire un petit récapitulatif sur les cahiers pédagogiques s'il te plaît?
Ouais, cahiers pédagogiques c'est une association qui date de 70 ans, plus de 70 ans maintenant, mais qui est quand même malgré tout super... jeune,
bah oui.
Dans ses idées. Et donc, c'est un site, c'est une revue, ce sont des ouvrages, des formations, des rencontres, des conférences dans chaque académie.
Donc, cahier-pédagogique au pluriel.com.
Ouais.
Mais sinon, un bon moteur de recherche, vous y arriverez. Alors, et quant au métier de professeur, c'est un métier que tu conseillerais à nos jeunes qui écoutent, là, qui sont en train de finir et préparer leurs examens, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire de leur vie. Tu dis ouais,
oh ouais.
Ça te laissera du temps, mais ce sera vraiment un beau métier.
Non, ça ne laissera pas beaucoup de temps, mais ça a des moments d'une intensité qu'on n'imagine même pas, du bonheur, de l'énergie. Disons que c'est comme un peu quand on est parents, c'est-à-dire que nos élèves, ils nous donnent plus d'énergie qu'ils nous en prennent, et que c'est effectivement un super métier, très funky.
Puis ça permet de vieillir moins vite aussi, d'être en contact avec les jeunes, non? Il n'y a pas un petit côté toujours très rafraîchissant, d'être toujours à la mode, savoir ce qui se passe, ce qui marche? Non.
Ah bah si, regarde.
Bah ouais, non mais bon, on se fait pas encore de télé Aurélie, mais...
Ouais, non mais si, carrément, en tout cas ça donne moi je trouve la pêche, et voilà, c'est vrai que j'y suis allée pour avoir un peu de temps pour faire autre chose, et en fait je suis tombée dans le chaudron et j'y reste, et j'adore ça.
Bon, bah c'est très bien. Et bah je te remercie. Amis auditeurs, ne lâchez pas le 93.9 puisque dans bientôt une petite minute, vous aurez Hémisphère Sound qui vous fait voyager sur la planète via le son. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une émission des yeux fermés, une spéciale rap qui se fera en direct de la place, Jacques Demy, dans le 14e, puisque c'est le mois du handicap, donc il y a plein d'événements en ce moment. Si vous voulez découvrir un peu ce qui se propose, ce qui se passe chez nos amis qui sont en situation de handicap, mais qui font des choses super et de plus en plus avec les autres. Donc moi je pense que voilà, par exemple on fait de la radio avec les yeux fermés et c'est important pour nous de nous mélanger pour pas qu'il y ait de différence. Le week-end d'après on se retrouvera avec les jeunes de la ville de Bobigny qui nous font une émission spéciale sur les écrans. Donc faire attention, les écrans, faut pas regarder ça trop souvent. Ils seront en direct, ils enregistreront en direct de la fête de la ville qui est le 15 juin et on les diffusera un petit peu après. Et le 29, vous retrouverez les jeunes stanois du conseil municipal des enfants, puisque certaines villes pensent qu'il est important que les enfants s'impliquent et s'appliquent à être dans la vie politique étant très jeunes. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Ciao, ciao, bye. 19.